Bonjour à tous, bienvenue sur le 96e épisode de Comics Weekly. Je suis cette semaine avec Mr. Olemony.
Mais oui, il est là, il est toujours là, malheureusement pour vous.
Et The Chick Magnet, alias Kinghead.
Welcome everybody.
Et on a décidé de changer ton pseudo de ta place de Chick Magnet. Vous comprenez ça en écoutant le podcast spécial Caparo qui viendra bientôt. Et oui, l'homme à femme.
Pff, n'importe quoi. Donc,
vous allez bien?
Bah, très bien.
Oh là, l'entrée en matière toute miteuse. Oui, bah oui, non.
Chaudement.
Oui. D'ailleurs, je précise tout de suite que pour des conditions de je n'ai pas envie de mourir, j'étais obligé de laisser les fenêtres ouvertes. Donc, il se peut que vous entendiez quelques voitures passer, peut-être.
Et même une ambulance, bientôt.
Ouais. Ou des gamins qui crient, mais qui se sont trouvés avec un. Des plombs de carabine dans le cul, je sais pas, s'ils me font trop chier.
Alors ils crieront encore plus fort.
Mais non, je ne suis pas un bourreau d'enfant. Comme d'habitude, on se retrouve cette semaine pour les sorties VO, avec un petit peu de tout, hein, du DC, du Marvel, un petit peu de Image aussi.
Du Dark Horse.
Du Dark Horse, ouais. Non, pas du Image cette semaine. Ah si, du Image, pardon, je ne sais plus. Je suis perdu un petit peu dans mes fiches. Et du IDW, voilà.
Ok.
Je crois avoir fait le tour. Et comme d'habitude, on va commencer cette semaine par les news. Et dans les news de la semaine, le gros scandale que nous avons pu vivre en direct, Kinghead et moi.
C'était pendant le panel de DC justement sur les New 52 à la Capo. Finalement, c'était une question assez anodine. Finalement, la réponse a été aussi assez courte.
Donc, assez anodine, oui et non, puisque ça venait de quelqu'un qui est militant pour le mouvement. Je sais plus, c'est ouais, ça va être ça, voilà.
Non, mais c'était juste une question parce que justement, Dan Didio avait dit en fait dans des interviews avant les New 52 qu'ils allaient sans doute changer le statut de certains personnages, à savoir que des personnages mariés ne seront plus mariés, des personnages qui étaient morts pourraient être à nouveau en vie. Et en fait,
voire même des personnages avant mariés avec quelqu'un de vivant pourraient se marier avec des morts aussi.
Oui, enfin toutes les possibilités, mais par contre il n'avait pas parlé de la possibilité de quelqu'un qui était hétéro qui devienne homosexuel en fait.
Oh là là.
Et donc en fait il posait la question si c'était quelque chose qui était encore vrai ou s'ils allaient changer ça. Et en fait Dan Didio a répondu au tac au tac en disant que bah justement ils étaient revenus sur leur position et qu'ils avaient un personnage qui est assez iconique pour lequel ça allait être le cas et qui ce serait je crois en juin. On aurait du coup, un personnage qui aurait changé au niveau de sa sexualité.
Et ce sera Batman, ce sera Bruce Wayne.
Alors tout de suite, Fox News s'est emparé de la chose et a commencé son article en disant « Est-ce que Superman pourrait devenir gay ?» Mais non, ben, à croire que ces gens-là se sont mal renseignés. En même temps, c'est Fox News, la mauvaise foi, ça les connaît.
Oui, c'est n'importe quoi. Mais
il n'a pas bien précisé que ce serait... Quoi. C'est un personnage qui va revenir, donc on n'a pas vu depuis le départ dans les New 52. Un personnage iconique, mais qu'on ne l'avait pas encore vu. Donc, ça ne peut pas être Superman. Bonjour. Enfin, c'est tout simple, quoi. Ouais, enfin, Fox News en même temps, hein. Excuse-moi, c'est pas vraiment une référence.
Mais alors, attendez, il y avait, parce que moi je suis au courant de rien, j'étais pas là-bas. Il y avait Dan Didio à la capo?
Il y avait Dan Didio à la capo, et c'est lui qui a souvent répondu à cette question.
Ah, c'est vrai? Il y avait Joe Quesada, Dan Didio et tout?
Ouais.
D'accord. Ok, donc vous les avez vus en vrai?
Exact. J'ai même serré la main de Dan Didio et une photo avec John Quesada.
Oh, Joe, parce que John c'est son frère.
C'est oui, pas non Joe. Plus The Chickman. c'est pas que The Chickman Night, hein. C'est vraiment.
Mais donc voilà. Mais en fait, il y a des rumeurs qui disent que ce serait peut-être en fait le Green Lantern de Earth 2, bah qui serait homo en fait au lieu d'être hétéro. Mais bon, ça reste que des rumeurs.
En plus, c'est même pas un vrai personnage, c'est un personnage de Earth 2.
Mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est la façon dont c'est monté en mayonnaise, alors que bon, bah voilà, en fait, s'ils ont des bonnes histoires à raconter, je vois pas pourquoi ce serait choquant, et puis, c'est ça qui est important.
Non, mais l'histoire s'arrête pas là, en plus, honnêtement. Il y a une association, une association chrétienne conservatrice. Hein, donc déjà, oui, on sait tout de suite à qui
c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Très bons comics aussi.
Qui s'appelle One Million Moms, qui avait déjà lancé une campagne, hein, on s'en rappelle, à l'époque du mariage gay qu'il y avait eu dans Archie. puisqu'ils étaient mis en vente de façon très visible dans les vitrines des Toys R Us, et elles avaient lancé une campagne contre ça. Elles montent au créneau parce qu'avec cette annonce-là, plus le mariage de North Star, et là où ça devient hallucinant quand même, elles disent dans une lettre, toute une missive qu'elles ont faite, on n'a pas envie que nos enfants viennent nous voir en disant « Ah bah moi aussi je veux un petit copain comme j'ai vu dans X-Men ».
Voilà. C'est juste complètement débile, mais ça.
Voilà le niveau quand même. Bien sûr, hein, et on finit par en citant en tant que chrétien, nous savons que l'homosexualité est un péché, voire les Romains. Chapitre 1, verset 26-27. Enfin voilà, un truc comme ça, c'est juste à faire vomir, quoi.
C'est n'importe quoi, mais en même temps, à chaque fois, dès qu'il y a des polémiques, il y a toujours des gens assez cons pour venir faire des se la ramener, et là c'est le cas. Et... Moi je dis, on attend.
Elles disent que ces associations gays veulent endoctriner leurs jeunes.
Non, mais c'est n'importe quoi.
Non, mais c'est hallucinant.
C'est marrant parce que ces gens-là, bon alors, visiblement parce qu'il n'y a pas eu le buzz autour, mais par exemple, n'ont pas lu le dernier épisode de Avengers The Children's Crusade, où tu voyais très clairement une grosse splash page avec les deux membres de l'équipe là, gays.
Oui, bien sûr.
Je sais plus lesquels c'est, en fait. Wiccan et Hulk, je pense.
C'est ça.
Ouais, qui s'embrassent.
Non, puis c'est pas la première fois. Je veux dire,
non, c'est pas la première fois, mais je veux dire, moi, je me rappelle de celui-là parce qu'en l'occurrence, j'avais lu cette mini. Bah, voilà, enfin, ça m'a pas du tout choqué et c'est passé totalement inaperçu d'ailleurs, je pense.
Enfin, non, mais ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est de juger la qualité des histoires, la façon dont c'est fait, et puis de voir. Faut surtout pas que ce soit trop, caricatural après. On peut critiquer quand c'est fait de façon trop caricaturale.
Bah, au risque de choquer, justement, c'est même l'inverse pour moi. C'est-à-dire que honnêtement, tout ce buzz, je m'en fous, mais royalement. Enfin, c'est, je veux dire,
moi je suis comme toi.
Soit hétéro ou enfin ce que tu veux.
En plus, il y a quand même eu parmi les meilleures histoires de DC récemment. T'avais quand même eu Batwoman, qui était vraiment un très très bon comics et qui traitait de l'homosexualité aussi. Et voilà, il y avait une bonne histoire, il y avait des bons personnages et.
Enfin, du moment que les histoires sont bonnes, après, je m'en fous complètement. Les orientations sexuelles ou la religion des persos, c'est représentatif. Il en faut aussi. Enfin voilà.
Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que ça fasse encore du buzz, quoi.
Ouais. Ah, ouais.
Mais là, c'est vrai que ça tombait en même temps que ce qui se passait chez Marvel avec le mariage dans les.
C'est dans Astonishing X-Men 51 qui sortira le mois prochain.
Et puis il y avait le fait aussi qu'il y avait Barack Obama qui a fait des discours récemment où il disait qu'il était en faveur du mariage homosexuel. Donc c'est monté comme ça en mayonnaise.
Et c'est d'ailleurs pour ça que DC a décidé de changer sa position, puisqu'ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas d'autres personnages à l'époque, et que aujourd'hui, vu que Obama a l'air d'être un peu plus en faveur du mariage gay, ils ont décidé de réviser leur position et donc de continuer, c'est-à-dire si un personnage doit être gay, il sera gay, c'est pas parce qu'il n'était pas gay avant que.
Je suis pas sûr que ce soit en rapport avec ça, par contre.
Ça, c'est la version officielle.
Ah ouais,
c'est ce que j'ai lu. Ouais.
Parce qu'il y a quand même déjà eu pas mal de personnages gays et tout dans l'univers DC.
Oui, il ne devait pas y avoir de changement de sexualité entre les anciennes versions et les nouvelles versions. Non. Comme je dis, surtout qu'apparemment, si c'est Terre 2, c'est rien. Ouais,
tout ce qui se passe sur la Terre 2, c'est quand même très différent de ce qu'il y avait dans le Justice Society avant. Donc, on repart sur des bases complètement
différentes. Ce ne sont même plus les mêmes personnages.
Bah, ils ont juste les mêmes noms, quoi.
Oui, voilà.
Mais leurs origines changent, leur âge change. Donc, ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Donc,
vécu la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont plus les mêmes personnages du tout, en fait.
Voilà, c'est ça. Mais c'est du coup.
Eh ben moi, les enfants, vous auriez vécu la Seconde Guerre mondiale. Hein, ben vous auriez pas cet avis-là. Hein, je vous en mets truc, moi.
En tout cas, c'est vrai que c'était amusant, Steve, d'être dans la salle au moment où il y a eu cette question et après de voir le buzz qui a été.
Surtout qu'en plus, les gens dans la salle,
à l'origine du truc,
les gens dans la salle n'ont absolument pas réagi.
Il y a eu des applaudissements.
Pas plus positivement que négativement. C'est-à-dire, les gens étaient contents d'avoir une annonce. Point. Bah ouais.
Voilà, c'est ça. Il y a eu des applaudissements et puis passer à la question suivante. Hein. Le truc, il a duré même pas une minute, quoi.
Voilà, c'est tout.
Mais bon. Voilà, ça a fait l'actu cette semaine.
Ouais, et à mon avis, on n'est pas continué à entendre parler. Ça, c'est pas fini tant que le mariage ne sera pas passé et que le personnage ne sera pas connu officiellement. On va en entendre parler encore.
Oui.
Allez, on continue avec du côté des du 10. Oh la putain, trop mal.
C'est l'émotion, Steve. Tant de bonnes nouvelles comme ça, des gens heureux comme ça qui se paxent, qui se marient.
Non, si surtout si le mal de tête me lâchait, ce serait bien. Mais apparemment, ça en a décidé autrement, donc on va continuer quand même. Digital. Alex Ross va sortir un artbook uniquement digital qui s'appellera The Dynamite Art of Alex Ross, qui va reprendre toutes les covers qu'il a pu faire pour Dynamite. Il y aura des sketchs, il y aura des designs, il y aura des layouts, il y aura des travaux qui n'ont pas été publiés aussi. Le tout accompagné de commentaires de sa part. Il y aura aussi des couvertures qu'il a faites pour Marvel qui sont partagées avec le digital, qui font partie de ce deal entre Marvel et Dynamite, pardon. Le tout est vendu au prix de $24.99, mais fait quand même 328 pages.
Okay. Mais alors, attends, je comprends pas. J'ai vu l'info passer sur ce bouquin, et en fait, finalement, ce sera exclusif au digital. Ça ne sortira jamais en vrai.
Alors, apparemment, ça va sortir en bouquin aussi, mais voilà, il est disponible en digital. Et c'est
Ok. Parce que $24, oui, quand même, pour un truc, encore une fois, virtuel, ça fait beaucoup.
Alors en plus ouais le artbook moi c'est vrai qu'en digital ça me plaît beaucoup moins quoi, enfin je veux dire c'est souvent des objets que t'aimes bien feuilleter.
Ah ouais, voilà, c'est plus un objet qu'un salon, livre que tu vas lire en fait.
L'avantage quand même des pages en digital comme ça, c'est qu'on peut agrandir dessus et on peut regarder les petits détails, chose qu'on peut pas forcément faire, ou alors avec une loupe.
C'est vrai ouais.
Et surtout quand ce sont des artbooks comme ça, ça permet aussi de voir un petit peu son travail, surtout sur les dessins préparatoires, ce genre de choses, ça peut être intéressant aussi.
Ce qui serait cool, c'est que si on achète la version papier, on ait un code pour la version digitale, par exemple.
Ça, par contre, je ne peux pas le certifier, mais je n'ai pas vu ça passer.
Ça, ce serait bien, par contre.
On continue avec une petite annonce, vous l'avez sûrement vu sur le site déjà, et puis vous l'avez sûrement vu ailleurs, mais au cas où vous seriez passé à côté de cette info. C'est Peter Weller qui fera la voix du Batman dans Dark Knight Returns.
Alors donc, Peter Weller, rappelle-nous un petit peu.
Robocop.
D'accord.
Ah, quand même. Ouais. Ou Planète Hurlante.
Il a la voix assez grave, je pense que ça ira très bien pour Batman.
Et puis ça va nous changer de Kevin Conroy, hein, ça donnera aussi autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre, ça peut être sympathique.
Et je crois que ce sera en deux parties, c'est ça?
Oui, ce sera en deux parties, oui. La première partie arrive cet automne et la deuxième début 2013.
Ah ça par contre j'avais loupé cette info, d'accord. Et c'est la première fois alors qu'ils font un truc en deux parties.
Ouais, c'est la première fois, ouais. Et je suis plutôt rassuré par le design, parce que j'avais un peu peur, j'avais vu des images de l'autre film d'animation qu'ils ont prévu sur Superman, qui lui est vraiment très moche. Je crois que c'est Superman versus The Elite ou un truc comme ça.
Oui.
Là c'est beaucoup plus sympa au niveau graphique quand même. C'est assez proche du Miller.
Ouais, avec un Batman à la mâchoire très carrée.
Et voilà, ouais, classique, mais.
Enfin là encore plus quoi, c'est vraiment le gros Batman bourru.
Ouais.
Et on va terminer avec tout ce qui est film, en tout cas pour les news. G.I. Joe, Retaliation, qui devait sortir le 29 juin.
Un film qu'on attend tous avec impatience.
Avec au casting quand même, on a Dwayne The Rock Johnson.
Ouais, The Rock.
Bruce Willis.
Oui.
Qui est venu se perdre dans un G.I. Joe.
Alors,
et donc qui est réalisé par John Chu, va être retardé de 9 mois, sortira le 29 mars 2013, pour pouvoir passer le film en 3D.
Non, sans déconner.
Ouais, si, c'est vraiment nul. Non, le premier G.I. Joe était pas génial, mais c'était quand même un bon divertissement.
J'attendais marrant. Franchement, il était marrant. C'était le genre de film que tu peux remater le soir entre potes.
Ouais, moi, justement, j'avais trouvé ça assez drôle. Le 2, je l'attendais, du coup, avec Bruce Willis et tout, c'est sympa. Et ouais, le fait de retarder de 9 mois juste pour la 3D, ça m'énerve quoi.
La 3D, c'est la raison officielle. Moi, je pense que dessous se cache autre chose. Le fait que Avengers a fait un méga carton, qu'on a Amazing Spider-Man qui va sortir, qu'on a Dark Knight Rises qui va sortir.
Ouais.
Je pense que c'est parce qu'il y a trop de concurrence et que c'est
pour ça. Pourquoi le mois de mars, un peu plus tôt quand même.
Ouais, parce que l'année prochaine, il va se retrouver je sais pas moi face à Superman je crois qu'il doit sortir en début d'année aussi.
Par contre, tu vois, j'avais même oublié qu'il allait avoir un Superman.
Mais il y a aussi un autre argument, c'est que, par exemple, Hunger Games, qui est sorti en début d'année, à peu près à la même époque, a fait un gros carton. C'était aussi du studio Paramount. Et donc, il se base aussi sur le fait que, à cette époque-là, les films ont tendance à mieux marcher.
Ouais, mais c'est quand même un peu ridicule parce qu'ils avaient bien commencé leur promo, il y avait déjà tous les trailers avec la date. Ça c'est un peu naze quoi. Et j'ai lu qu'en plus ils allaient tourner de nouvelles scènes exprès pour la 3D, donc des scènes qui seront sans doute sans aucun intérêt. Et voilà, enfin bon.
Si c'est exprès pour la 3D, pour une fois pourquoi pas, mais alors faudra vraiment que ce soit avec des effets 3D intéressants.
Ouais, mais ce sera peut-être retourner certaines scènes aussi hein.
Ouais. Enfin bon, c'est un peu décevant. Oui. Et côté ciné, ouais, moi j'ai une petite news. Je suis allé voir Men in Black 3 donc hier soir. Donc bon, il y a une origine comic book avec Men in Black, ce que me disait Steve. Bah le film est assez divertissant. Moi, j'avais pas du tout aimé le deuxième épisode. Là, je trouve que ça remonte pas mal le niveau. On retrouve un Will Smith assez drôle et tous les passages dans le passé sont plutôt sympas avec pas mal de petits clins d'œil.
Mais alors, est-ce qu'il y a encore Tommy Lee Jones ou il est plus là du tout?
Ouais, s'il est là pour une bonne partie du film, mais comme après ça se passe dans le passé, on retrouve sa version jeune en fait, qui est interprétée par un autre acteur. Et voilà, c'est un bon divertissement. C'est pas non plus le film de l'année. Il y avait pas grand monde dans la salle. Je sais pas s'il va très bien marcher. Par contre,
bah, ils étaient tous encore en train de voir Avengers. Mais par contre, est-ce que la version jeune est un petit peu ressemblante? Parce que quelquefois il y a des
films. Ouais. Alors l'acteur qui joue la version jeune, c'est Jeff Brolin, ouais, qui est un très bon acteur et vraiment on retrouve les mimiques de Tommy Lee Jones. Ça, c'est vraiment un truc qui est bien réussi.
Ah, tant mieux, parce que quelquefois tu te demandes pourquoi ils ont pris tel acteur, tu sais, ils ont pris un black alors que le mec est blanc, tu sais pas.
Ouais,
pourquoi.
Non, là c'est vraiment bien fait là, on retrouve les mimiques et tout, il y a eu un bon travail d'acteur à ce niveau-là.
D'accord.
Voilà, un bon divertissement. C'est un buy ou un check it.
Bah ça dépend, c'est un buy ou un check it.
Voilà, c'est un check it.
Bon, en même temps, pour le moment, dans un film, au fait, tu peux juste le checker le film puisque tu peux pas vraiment l'acheter encore.
L'acheter pour l'instant.
Donc, je pense aussi ce qui joue hein, sa défaveur, c'est comme on disait l'actu ciné actuellement qui est assez chargée puisqu'on a Prometheus qui va sortir aussi.
Ah ouais, là, ça on l'attend beaucoup. Avec
peut-être que les gens s'y se réservent pour ce genre de choses.
Puis il y a toutes les sorties des films de Cannes aussi en ce moment. Donc pour les cinéphiles, c'est quand même aussi intéressant. Donc
On va pas polémiquer sur Cannes, mais excuse-moi, les films qui sortent à Cannes, c'est pas forcément les films qui sont les plus intéressants au niveau du cinéma.
Ah, je suis pas d'accord avec toi. Il y a de très bonnes surprises pour moi.
Eh bien, nous ferons un spécial Cannes ces jours.
Une prochaine fois, si tu veux.
Mais pas toutes les années. Cette année, il y a peut-être plus de meilleures choses, mais c'est souvent des films de branle kiki, je trouve.
Bien, voilà, c'est dit.
Allez, on va passer maintenant aux reviews, puisqu'on en a terminé avec les news, et on va commencer avec une triple review, une des grosses sorties de la semaine, le Aquaman numéro 9. C'est donc scénarisé par notre ami, enfin ça dépend des jours et des séries qu'il écrit, Jeff Jones.
Oh, mais en ce moment il redevient pas mal sympa. Hein.
Oui, non mais oui, ça va.
Pour moment, sur ces trois titres en ce moment, il fait du bon.
Il revient bien.
Ouais.
Peut-être qu'il est revenu de vacances. Peut-être que c'est de nouveau lui qui écrit.
Peut-être qu'il a dû voir des jeunes femmes. Peut-être qu'il s'est bien occupé de lui pendant quelques heures et ça lui a fait du bien.
Peut-être qu'il a été voir Avengers au cinéma et il s'est dit merde, mes comics sont moins bons que le film. Donc c'est Ivan Reis aussi qui est toujours au dessin avec Joe Prado, Auclair Albert et Andy Lanning à l'ancrage. Troisième partie de l'arc The Others, Black Manta Strikes, on va dire.
Ouais, c'est ça. On en apprend plus sur le passé un petit peu d'Aquaman, savoir qu'est-ce qui était vraiment derrière cette animosité entre Black Manta et Aquaman. On découvre aussi d'autres membres de cette équipe qui s'appelait The Others. Je trouve qu'il y a un bon rythme. Moi, je suis toujours un peu ébloui par les dessins. Franchement, c'est sublime. Au niveau, il y a toujours un peu la même critique qu'on a d'habitude, à savoir qu'il y a quand même pas beaucoup de texte. Mais bon, c'est quand même une bonne histoire, moi j'ai trouvé.
Bah, ça se lit super vite, hein.
Ouais.
Franchement, 5 minutes montre en main et encore en prenant son temps. Et c'est essentiellement deux scènes, hein. Black Manta qui poursuit, je sais plus comment il s'appelle,
The Prisoner.
Voilà, un ex-pot à Aquaman.
Et puis découvre un petit peu plus au niveau de ses pouvoirs d'ailleurs.
Ouais, que j'ai trouvé assez sympa. Ça m'a fait penser un peu à Ragman, mais version militaire.
Il y a un côté un petit peu aussi John Stewart.
Ouais, et on voit aussi qu'Aquaman était un peu moins sympa avant, et qui s'est un peu ramolli avec le temps, qui s'est assagi, on va dire. Et puis bon, bah il y a ce coup de théâtre final à la Jeff Jones, j'ai envie de dire, qui relance pas mal l'intérêt, qui rajoute un petit peu de piment. Bah, globalement c'est sympa. Bon, par contre,
Ça se lit vite.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais c'est vraiment très très beau, hein, par contre. Hein, moi.
Ouais. Ouais, franchement, on peut s'extasier devant les dessins pendant quelques minutes, donc ça contribue quand même, ça. Ça compense.
Entièrement d'accord. Non, mais enfin, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus parce que sinon, on rentre vraiment dans le scénar et on vous pète toutes les surprises. Donc,
c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est des spoilers.
En même temps, c'est pas mal. C'est c'est une review express, mais en même temps, le comics se lit aussi très vite, donc bon. Voilà.
Bah, c'est quand même le gros défaut de cette série.
Ouais.
Ça devient un petit peu désagréable, quoi.
Ouais, ouais. On a l'impression qu'il se repose un petit peu trop sur son artiste. Il sait que les dessins sont vachement bons, donc il pourra toujours dire ouais, mais vous avez des dessins super. Bon, le scénario prend son temps, certes, mais voilà.
Mais la mise en scène est bonne. Donc ça se trouve quand l'auteur, enfin le dessinateur, il reçoit le texte, il y a beaucoup de descriptions sur à savoir comment la scène doit se passer. Donc il y a peut-être pas mal de choses écrites par Jones.
Bon, c'est attends, mais juste marqué tu te démerdes avec une tache de café en plus.
Mais ouais, non, parce qu'il y a quand même de beaux efforts, je trouve, au niveau de la mise en scène de l'action. Mais bon, pour moi, c'est un bail plus plus, en référence à un commentaire de Chaosstorm qui avait dit la dernière fois que je disais j'aimais bien tout, donc
il y a ouais, le bail plus j'irais plus. J'irais pas jusque là, c'est un bail évidemment, mais un bail quoi.
C'est un bail, ouais. C'est un bail voilà. Aussi pour moi. Bon, vraiment, on est d'accord là-dessus. Aquaman,
valeur sûre.
Ouais. Ouais, valeur sûre.
On continue
Bah... Oh non, on s'arrête. Allez, bon appétit, et puis à la semaine prochaine.
Kinyad à toi.
Alors oui, alors bah, moi cette semaine j'ai lu beaucoup de comics, pas mal de comics neufs, puisque beaucoup de numéros neufs de chez DC. Donc je vais vous parler de High Vampire numéro 9. Donc on en avait pas trop parlé, je crois, jusqu'à présent dans les weekly. J'avais
juste le numéro 1.
Ouais, j'ai rattrapé mon retard et c'est une série que finalement j'ai appris à apprécier. Donc au scénario on a Joshua Al Fialkoff et au dessin Andrea Sorrentino. Donc c'est la même équipe créative depuis le début. Alors déjà, j'étais vraiment rassuré de voir que c'était un titre qui était quand même assez dark, pas du tout tendance Twilight et compagnie, c'est parfois même assez gore. Des dessins qui sont assez sombres avec un style assez particulier, ça fait penser un peu du Jelly, quoi. Mais quand même, on s'y retrouve bien dans l'action. Donc là, c'est un nouvel arc qui commence à partir de ce numéro 9. On avait quitté les personnages principaux avec un crossover avec la Justice League Dark, où en fait le héros Andrew Bennett venait faire partie justement de l'équipe Justice League Dark. Là, ce qui se passe dans cet arc-là, dans ce nouvel arc de High Vampire, ça se passe plusieurs mois ou semaines après ces événements, et où en fait on voit Andrew Bennett qui essaye de faire rentrer un peu dans le rang tous les vampires, parce qu'il ne veut pas que les vampires s'attaquent aux humains. Donc il a son ancienne copine, donc la Marie, la Queen of the Blood, qui est pas trop du même avis. Donc voilà, on voit un peu leurs différences à ce niveau-là. Et en même temps, on suit le pote et la copine de Andrew Bennett qui sont partis dans les Carpates pour essayer de rencontrer un groupe de chasseurs de vampires qui s'appelle les Van Helsings.
Comme c'est original.
Voilà, comme c'est original. Et donc bah là, on en découvre un peu plus sur le mythe du vampire dans l'univers DC. Moi, je trouve que c'est assez agréable à lire et j'ai bien aimé. Il y avait quelques scènes assez choc. Donc voilà. Pour moi, c'est une bonne surprise quand même par rapport à ce que je pensais avant. Donc c'est un check-it pour moi.
Ok. Benny, à toi.
Donc je vais vous parler du Batman Incorporated numéro 1 puisque ça a été relaunché. Grant Morrison est bien sûr au scénario. C'est pas Frank Quitely au dessin, c'est, j'ai oublié son nom, Chris Burnham. Si, je dis pas de bêtises. Voilà, Chris Burnham qui a un style très Frank Quitely, je trouve.
Bah, sur certaines pages, c'est très confondant, ouais.
Ouais. J'ai trouvé que là, plus que d'habitude, il y a, bah, enfin, la scène dans la boucherie, là, dans l'abattoir, j'ai vraiment cru, en feuilletant le numéro, que c'était du Frank Quitely, mais pas du tout. C'est bien du Chris Burnham. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah alors, déjà, contrairement aux autres épisodes de Batman Inc. que j'avais pas du tout aimé, là, pour une fois, c'est vraiment du Batman à Gotham City, c'est Batman et Robin, donc Bruce Wayne et Damian. C'est une aventure assez classique, donc qui reprend vraiment les ficelles des épisodes de Batman classiques, donc tant mieux. Du coup, j'ai plutôt bien accroché. Alors ça commence
surtout par une page choc, en fait.
Ouais, voilà. Ça commence surtout par un truc, un retour. Enfin, ça se passe présentement, quoi. Enfin voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et ensuite, il y a un retour en arrière, donc on te dit un mois plus tard et on te montre.
Non, un mois avant.
Un mois avant, oui, pardon. Excuse-moi. Effectivement, un mois avant, on te montre ce qui s'est passé pour arriver jusque-là. Alors, malheureusement, tout le numéro ne va pas jusqu'au début. Enfin, tu voyez ce que je veux dire, vous m'avez compris. Mais bon, enfin, à mon avis, on va passer toute une partie de l'arc pour nous montrer ce qui s'est passé jusque-là, quoi. Bah alors, bon, il affronte toujours des soldats, enfin des envoyés du Léviathan, dont un mec qui est un sniper et qui va essayer de d'abattre Damian. Donc va-t-il y parvenir? Ben, vous verrez. Bon, c'est un mec un peu paumé, père de famille, qui essaye de s'en sortir, etc., et qui travaille pour les mauvaises personnes. On le voit pas mal pendant l'épisode. Enfin voilà, l'épisode est pas mal centré autour de lui.
Il nous montre quand même les motivations du mec, donc. Bon.
Bah, je trouvais, voilà, en fait, justement là-dessus, je trouvais que pour une fois, Grant Morrison, sa manière d'écrire était plutôt pas mal. Je trouvais ça agréable à lire et j'ai pas trouvé ça cafouillis. Enfin, j'ai suivi le truc, quoi. C'est pas complètement déstructuré, c'est pas complètement psychédélique comme d'habitude.
Ouais, il a quand même un truc avec les animaux.
Ouais. Oui, bah oui. Après Professeur Pig, là, on a quand même des gens avec des têtes de bouc, des têtes de chèvre. Il y a un petit problème. Et puis alors, il y a cette Batco, voilà. Il y a une allusion peut-être à un ancien épisode avec une Batco, je sais pas.
Ouais, je sais pas. Il s'est tapé un délire.
Mais grosso modo, bon, le final est un peu cousu de fil blanc.
C'est le problème, c'est que le final sauvait une image choc, mais on a déjà tous compris ce qui s'est passé, quoi.
Ouais.
Là, il n'y a pas moyen de nous surprendre. Si, ou le moyen de nous surprendre, ce serait que ce soit vrai, mais.
Mais en tout cas, voilà, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup d'actions. C'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça.
Et on revoit aussi certains personnages de ce Batman Incorporated, en fait.
Ouais. Batman, ouais.
Voilà, on n'en dira pas plus, à vous de découvrir.
Ouais, ouais. Enfin, il y a pas mal de choses qui se préparent. Voilà.
Et, ouais, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Alors, moi, je n'ai pas lu Leviathan Strikes. Je pensais être perdu. J'ai réussi à lire sans aucun souci, donc si vous avez raté le one-shot, ou si vous aviez pas eu envie de le prendre, ce qui était mon cas, vous pouvez quand même lire Batman Incorporated.
Bah, le one-shot en question était plutôt sympa. Là, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, puisque vraiment, j'ai tout compris. Et bon, bah voilà, quoi, c'est la guerre entre, on peut le dire maintenant, hein, Talia et Batman. Donc bon. Qu'est-ce qu'il y a?
Talia et Batman.
Non, la guerre entre...
Ah, pardon. Je croyais que tu nous faisais un Captain America et Bucky, en fait. Un Hawkeye et Bucky, mais je me suis dit, tiens, tu l'adaptes à DC.
Non, du tout.
Excuse-moi, alors, j'avais mal compris.
Là, en plus, il y aurait un petit problème, quoi. À la rigueur, Batgirl, mais Batman, je sais pas. Ou bien alors, il y a des choses qu'on ne sait pas encore sur Talia, c'est-à-dire qu'ils ont carrément changé de sexe, certains personnages, chez DC.
Bon, tu sais, une ablation des seins, c'était courant chez les Amazones. Hein.
Oui, bah écoute, je veux pas le savoir, toujours est-il que, voilà, c'est quand même un bon épisode, bien sympa. Pour moi, c'est un bail, cette fois-ci.
Ouais, c'est un bail. C'est un bail parce que c'est du bon Morrison sur Batman et que ça fait plaisir d'en lire de temps en temps.
Puis c'est surtout du vrai Batman, quoi, voilà, pour une fois.
Je sais que certains seront pas d'accord avec cet avis, mais enfin voilà, quoi, Morrison sur Batman, c'est juste chiant, quoi.
Bon, en tout cas,
là, pour une fois que c'est correct, faut soutenir le monsieur. Lui faire comprendre que ce genre d'épisode, on en veut d'autres, et pas ce qu'il a fait.
Ouais, honnêtement, voilà, quoi. C'était plus terre à terre, plus compréhensible, plus digeste.
Oui, et c'est pas pour autant que dans l'écriture, il n'y a pas un moment où c'est un peu torturé, ou qu'on comprend pas tout, mais voilà, c'est le début d'un arc, c'est normal qu'on comprenne pas tout. Quand à la fin d'un arc, on n'a pas tout compris, là, commence à y avoir des problèmes.
Voilà. Bon, mais ça me donne envie, en tout cas, moi, d'essayer, parce que je l'ai pas lu, ça me donne envie de le lire.
Ouais, non, mais franchement, tu peux même le lire sans avoir lu le précédent volume de Batman Inc.
D'accord, parce que j'ai pas mal de retard sur Batman Inc.
De toute façon, tout ce qu'il y a besoin de savoir, c'est ce que tout le monde sait aujourd'hui, hein, que Batman a formé une ligue de Batman dans différents pays. C'est tout. Y a pas besoin d'en savoir plus.
Ok.
Voilà.
Et même pour cet épisode, c'est même pas forcément très essentiel. Ok, on va passer à la suite. On va faire un petit tour du côté de chez Image avec la sortie de Near Death numéro 8. Bon, je vais pas m'attarder sur son numéro, il est déjà meilleur que celui de la semaine dernière. Du mois dernier, pardon. C'est toujours Jeff Herber et Simone Guglielmini. Oula, j'ai buté sur son nom à chaque fois. Guglielmini, voilà.
Ouais, il y a la version maxi aussi.
C'était mauvais, mais ça me fait rire. Voilà. Une histoire de famille qui s'entretue, en fait. Une histoire sympa. En fait, non, mais c'est voilà. Je vais pas trop en révéler sur le plot. Grosso modo, ça commence dans les années 50. Un homme est parti à la guerre en tant que soldat. Enfin, en 1941, pardon. Son frère ou je sais pas quoi, enfin en tout cas sa femme a un amant. Sauf qu'il rentre un jour plus tôt que prévu et il tombe avec cet amant dans la maison, installé à la table. Tout va bien, quoi. Et
ciel, mon mari.
Cet amant va tuer ce père. Donc, un peu plus tard, en grandissant, le fils de cet homme assassiné va tuer le fils de celui qui a assassiné son père. Jusque-là, vous suivez ?
Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'en réécoutant, je comprendrai. Non, mais j'en suis sûr. Quelquefois, je réécoute le podcast avant de m'endormir. Je suis sûr que là, dans mon lit, je comprendrai.
Bah, en gros, ça va être une rivalité entre ces deux familles-là. C'est-à-dire que, à la même époque, au même âge, l'un des deux va tuer le fils de l'autre, quoi.
D'accord. D'accord, ok.
Voilà. C'est, je te tue parce que tu as tué, parce que ton père a tué mon père. Et donc, encore.
Ah, ça me rappelle une autre histoire de cette semaine.
30 ans plus tard, c'est là qu'on arrive, le personnage principal est engagé pour essayer d'empêcher cette tuerie.
D'accord.
Alors, va-t-il y arriver ou pas, et qu'est-ce que ça va changer sur sa moralité? On verra. Bon, l'épisode est sympa, meilleur que celui du mois dernier, mais c'est pas transcendant. Là, ce sont des petits one-shots et ça m'ennuie un peu. Je préférais quand c'était une écriture en arc, honnêtement, parce que trop de one-shots, surtout que là, c'est
ça fait manque vraiment un peu d'ambition, quoi, peut-être.
Ben voilà, ça fait très série télé où il y a aucun lien, en fait.
Ouais,
on peut faire des one-shots, même si, et avoir quelque chose en filigrane derrière. Là, ça manque un petit peu de lien entre les épisodes. On peut en zapper un, on comprendra très bien ce qui se passe celui d'après. C'est un petit peu dommage. Reste bien sûr toutes les sa colonne Under the Influence, qui cette fois-ci s'intéresse à Robert Kreis, qui est un écrivain de thriller et d'histoire de détective, hein, bien sûr, donc toujours dans cette ambiance très polar, et un petit backup qui s'appelle Our Home, qui est écrit par Ed Brisson et qui est illustré par Jason Copeland. Petit backup de 5-6 pages, une petite histoire encore bien noire et bien glauque. C'est sympa, quoi. Le problème, c'est que ça fait deux fois de suite que c'est juste un check-it. C'est dommage.
D'accord.
Pour une série qui avait commencé comme, enfin, pour moi, une lecture absolue, quoi. Je commence à m'ennuyer un petit peu, c'est un petit peu bête, quoi. Enfin bon, ça reste sympa tout de même. On va continuer avec une autre review multiple, la review de The Flash numéro 9.
Ouais. Oui. Mmh.
Au scénario, c'est Francis Manapul et Brian Buccellato. Au dessin, Francis Manapul et aux couleurs, Brian Buccellato.
Donc vraiment, ils travaillent de concert, toujours.
Ouais, voilà. Et pour moi, c'est toujours aussi bon, quoi.
Bah, c'est une bonne équipe, hein, en tout cas.
Ils ont vraiment installé une ambiance dans Flash avec ce relaunch.
Bah, moi je suis le seul alors à je sais pas, je trouve ça sympa sans plus. Je trouvais que c'était bof quoi. La cité des gorilles, j'ai déjà vu ça.
De toute façon, faut bien la réintroduire façon New 52.
Ouais. Comme oui, enfin je veux dire non mais enfin même au-delà de ça, j'ai pas vu ça uniquement dans Flash, c'est-à-dire que j'ai l'impression de lire un épisode de Flash où voilà, il était perdu dans la planète des singes avec l'espèce de conseil là, t'es l'envoyé de la lumière, OK d'accord. Ah bah non, peut-être pas. Bon enfin voilà, Gorilla Grodd, il se fait un petit peu battre. Enfin comme une merde hein à la fin.
Enfin, je sais pas si t'as entendu parler du plan d'ensemble, mais il va y avoir un rogue de réintroduit dans chaque épisode jusqu'à septembre pour l'annuel où tout va péter en fait.
Ouais, d'accord. Ok. Bah non, en fait, j'avais pas lu ça, mais là, ça me fait carrément penser à ce moment-là à ce qu'on a eu dans The Gauntlet avec Spider-Man, quoi.
Ouais, peut-être. Je sais pas. Enfin, c'est surtout un moyen de réintroduire tous ces rogues dans l'univers.
Ouais,
nouvel univers classique maintenant, malheureusement, c'est ça. Mais...
D'une manière générale, je trouvais sympa sans plus quoi, je suis pas dire putain c'est génial à chaque page que je tournais, oh là là l'histoire est passionnante. Je me suis dit bon bah une histoire classique quoi de super héros, c'est sympa mais voilà.
Moi j'ai bien aimé le fait qu'ils ont à nouveau introduit le fait que Gorilla City il y avait un lien avec la force Velos, donc bon je trouvais que c'était pas mal. Comme dit Steve, moi ce que j'aime bien c'est tout ce qui est un petit peu autour là, quand on voit justement l'introduction de certains autres personnages comme comment il s'appelle celui qui contrôle le temps là, le
Weather Wizard, ouais, qui sera
ouais,
le
Weather Wizard. On voit aussi Piet Piper, donc je sais pas comment c'est traduit. Ouais voilà, donc un personnage aussi qui a l'air intéressant et par contre il y a un truc qui m'étonne un petit peu, c'est que
Urban va le traduire par Piet Piper.
Oui, mais voilà. Là, on parlait tout à l'heure des personnages justement ouvertement homosexuels et tout. Ça, c'est un personnage aussi intéressant, justement de chez DC. Et je trouve que c'était assez bien écrit ça. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que Barry, en fait, il s'est retrouvé dans la Speed Force et donc du coup, il a été pendant plusieurs mois, il a disparu. Et en fait, on a toujours Iris West qui est aussi, elle aussi coincée dans la Speed Force, mais il a pas l'air d'être plus que ça.
Est-ce que ça fait plusieurs mois?
Bah, il a l'air de dire plusieurs. Enfin, quand on le voit à la fin, il dit il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme si en fait il avait perdu pas mal de temps, quoi.
On sait qu'il avait déjà disparu depuis, ça va faire peut-être un mois, je me rappelle plus de le dernier épisode, ça avait été dit combien de temps, depuis combien de temps Patty le cherchait, mais...
Parce que là, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur justement Iris West, ce qui se passait dans la Speed Force avec elle.
S'il a disparu pendant un mois, la Justice League ne s'est pas inquiétée.
Ouais, c'est un peu bizarre.
C'est quand même étrange, ça.
Ouais, mais bon, mais sinon, moi j'aime beaucoup les graphismes, enfin les dessins sont vraiment superbes. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est un bail pour moi.
Mais peut-être que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse, tout simplement.
Non, parce que ça faisait un mois que Patty le cherchait, elle, depuis qu'il avait disparu dans la Speed Force.
Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui.
D'ailleurs, ça me fait penser à une autre erreur de temps que j'avais vue dans le Aquaman. Ça va pas être celui-ci, c'est celui du mois dernier, le 8, puisque j'avais rattrapé le 8 aussi que j'avais pas encore lu. J'avais commencé à le lire le mois dernier, mais j'avais pas eu le temps de le terminer. Puis j'ai fait autre chose entre temps. Il y avait Aquaman, on voyait au tout départ quand il... je sais pas si vous vous rappelez de cet épisode 8 où on voyait sortir du phare poursuivi par les journalistes et il se barrait en disant « Je vous déteste, bande d'humains, je suis pas comme vous » et il allait rejoindre The Others. Et entre le moment où ça arrive, donc c'était il y a 6 ans, il ressort un an plus tard, c'est bien marqué un an plus tard, avec ce costume torse-poil. Et bizarrement, je sais pas, ça colle pas au niveau du temps, quoi, puisque la Justice League a commencé il y a 5 ans et qu'il avait un tout autre costume et une toute autre mentalité. Là encore une fois, au niveau du temps, Geoff Johns, c'est limite, quoi.
Ah, mais après un an, c'est long, hein, il peut se passer beaucoup de choses en un an, donc. Bon.
Oui. Non, mais malgré tout, on a beau essayer de relancer un univers à zéro, ils arrivent quand même encore à se planter. Je sais pas.
Bon, c'est pas hyper choquant, mais c'est vrai que parfois on se pose des questions, quoi, sur la timeline.
Une petite erreur, plus une petite erreur, plus une petite erreur, ça commence à faire beaucoup.
Ça fait une grosse erreur.
Voilà.
Reste encore la mise en scène. Franchement, comme toujours, la mise en scène de Manapool et de Buccellato réunis, ça donne quelque chose de vraiment très joli à regarder.
Ouais, par contre, oui. Alors, très différent de Flash, d'Aquaman, ou de... Mais,
visuellement, ça a une identité propre, déjà.
Ouais.
Avec
très cartoony, très
bien des tons pastels,
bien plus jeune public, on va dire. Alors ça l'est pas forcément, mais
Ça l'est pas forcément, oui, parce que c'est quand même assez sombre par moment.
Ouais, mais enfin néanmoins c'est moins sombre qu'un Aquaman, quoi, je trouve.
Ça dépend des épisodes. Pour moi c'est un bail, hein, leur introduction de Gorilla Grodd.
Oui,
voilà, donc 3 bails alors.
Ok, ben on continue alors. Qui m'aide
alors? Donc je vais vous parler de la sortie Ultimate de la semaine, pourquoi quand même.
C'est étonnant.
Donc je vais vous parler d'Ultimate X-Men numéro 12. Donc c'est le dernier numéro de Nick Spencer avec au dessin il y a Paco Medina qui est inscrit, mais j'ai l'impression que c'est Carlo Barberi qui dessine en fait, parce qu'il y a deux noms différents entre la cover et les crédits. Les crédits à l'intérieur, mais bon. Mais le style, ça a l'air plus proche de Carlo Barberi, parce que j'aime un peu moins. Et là, les dessins sont juste corrects. Je préfère le style de Medina. À la Capao, j'avais vu Nick Spencer, qui m'avait dédicacé un comics. Et donc, je lui avais posé une question sur Ultimate X-Men 12. Je disais, est-ce que ça va se terminer avec un gros bang, ou est-ce que vous avez juste placé un certain nombre de choses qui vont être continuées plus tard? Il m'avait dit... c'est surtout, j'ai placé pas mal de choses, ça va être continué plus tard, il n'y a pas vraiment une fin d'arc qui se termine avec ça. Et effectivement, c'est le cas, il m'a pas menti, puisque l'histoire avance bien, mais on n'a pas l'impression qu'un arc se termine. Là, en fait, encore une fois, comme précédemment, on a l'impression qu'on passe d'un personnage à un autre entre chaque issue. Là, on s'intéresse à un nouveau perso qui est réintroduit, qui avait disparu depuis longtemps, c'était Havok, donc on voit ce qu'il est devenu.
Je ne savais pas qu'il y avait un Havok dans l'univers Ultimate.
Si, et qui avait survécu après la vague Ultimatum. Donc on le voit, donc il est dans un hôpital psychiatrique, il est hanté par pas mal de choses un peu, et il voit le fantôme de son frère. On retrouve aussi un personnage qui avait été introduit récemment dans une mini-série Enemy, Mystery et compagnie. On retrouve le personnage de Layla Miller version Ultimate, donc qui travaille à Roxxon Corporation. Et en fait, elle travaille aussi avec quelqu'un, un personnage mystérieux, qui est un petit peu derrière tout ce qui se trame depuis Ultimate X-Men numéro 1. À la fin du numéro, on a enfin la révélation sur la menace qui rôdait un peu depuis le premier numéro, même depuis Fallout. Pas de grosse surprise, parce qu'en fait, depuis Fallout, on pouvait se douter sur quel personnage allait pouvoir être derrière tout ça. Effectivement, c'est bel et bien lui. Mais ça fait plaisir de le voir dans l'univers Ultimate, de le revoir. Et donc je pense que ça va lancer maintenant de bonnes aventures. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, un petit peu moins bon au niveau des dessins, mais voilà, c'est une bonne histoire. Pour moi c'est un bail.
Ok.
Voilà.
En même temps, aurait-il pu en être autrement d'un Ultimate ?
Oui, ouais. Bah c'est dernièrement les Ultimate Spider-Man, je les trouve un peu moins bons. Ultimate X-Men, ça reste toujours assez sympa à lire. C'est vraiment The Ultimate, ce que je trouvais la meilleure série en ce moment par contre. Mais voilà. Donc c'est quand même un bail.
Ok. Benny ?
Je vais vous parler de Justice League Dark numéro 9. Au scénario, on retrouve Jeff Lemire qui arrive sur le titre et qui remplace donc Peter Milligan. Et Michael Hanin est toujours au dessin. Bah alors là, c'est on sent bien qu'il y a eu un changement d'auteur. C'est tout de suite plus digeste, j'ai trouvé. C'est plus sympa. Plus drôle. Il y a au fait John Constantine qui est empoché par Steve Trevor pour partir dans une mission sauvetage. Il y a eu un agent envoyé par Steve Trevor, par Largus, qui a été capturé par ce méchant. Alors attends, j'ai oublié son nom.
En fait, c'est la suite directe de ce qu'on a vu dans le FCBD, dans le Free Comic Book Day, puisque Steve Trevor nous apprenait que le Dr Mist avait disparu, il était parti en Amérique du Sud.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Et donc en fait, dans le Free Comic Book Day, il disait qu'il fallait prévenir John Constantine et Black Orchid. Et en fait, c'est la suite de ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans Justice League Dark numéro 9.
Et alors ce méchant, c'est...
C'est Faust.
Voilà, je cherchais son nom.
Voilà.
Faust. Et du coup, on a là un John Constantine. Alors au fait, ce qui est assez marrant, c'est que Steve Trevor lui promet d'accéder pendant quelques minutes à la Black Room. Et la Black Room, c'est une pièce où il y a tous les plus grands artefacts du monde, les objets magiques, etc., qui sont entreposés. C'est un petit peu une caverne d'Ali Baba pour John Constantine.
Donc, c'est là où était la Pandora Box de Pandora, justement.
Voilà. Et John Constantine, son rêve, c'est d'accéder à cette Black Room, qui est un petit peu une légende, un mythe. On ne sait pas trop si elle existe vraiment. Bon, elle existe. Mais lui a toujours imaginé que c'était peut-être aussi un truc un petit peu inventé. Du coup, il rassemble à nouveau toute une équipe que Steve Trevor appelle la Justice League Dark, mais au fait, eux-mêmes ne s'appellent pas vraiment comme ça. Mais donc, il rassemble à nouveau une équipe avec Deadman, avec Zatanna, avec quelques autres. Il y a même une nouvelle, c'est...
Donc Black Orchid.
Black Orchid, voilà. Ils sont tous un petit peu embarqués par John Constantine. Ils y vont tous un petit peu reculons. Ils savent pas trop si John Constantine va pas encore les mener en bateau. John Constantine qui explique à Zatanna, au fait, le deal qu'il a passé avec Steve Trevor, en la manipulant aussi un petit peu, je pense.
Ouais.
Donc l'épisode oscille entre flashback et instant présent, encore une fois, où ils sont face à Faust.
Ouais, j'ai trouvé la narration assez sympa, justement, le passage de flashback au temps présent. J'ai trouvé que c'était bien fait et que c'était assez clair, en fait.
Ouais. Non, franchement, c'est clair. Il y a beaucoup à lire, il se passe pas mal de choses, il y a beaucoup de scènes très drôles. John Constantine a beaucoup de répliques qui sont super marrantes. Par exemple, quant à Steve Trevor qui lui file un artefact, là, l'espèce de diamant, je sais plus ce que c'était, et qui lui dit à la fin, ouais, par contre, je vais le récupérer, t'as John Constantine qui dit, bon, bah, j'aurais au moins essayé, quoi, genre, on peut pas me reprocher d'essayer de te le piquer. Enfin, voilà, il est assez drôle, ce John Constantine, écrit par Jeff Lemire. Ouais, et puis, il a aussi un petit côté Indiana Jones, le côté, je sais pas quoi. Enfin, le mec essaye vraiment de retrouver des anciennes pierres, des anciens trucs. Et puis même la scène au début, quoi, avec la pyramide et tout, ça me faisait vraiment penser à du Indiana Jones.
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment la lecture moi qui m'a le plus emballé cette semaine. J'étais vraiment content de voir Jeff Lemire sur le titre parce que ça remonte un petit peu le niveau, même si c'était quand même assez agréable avant Justice League Dark.
Mais c'est là, brouillon, je trouve.
Ouais, c'était un peu brouillon, mais là du coup, en plus c'est vraiment en lien avec les grosses ficelles scénaristiques que DC veut faire en rapport avec la magie et tout ça, donc ça m'intéresse. Puis moi j'aime beaucoup les dessins de Michael Janin, je trouve qu'ils s'améliorent avec chaque numéro. Celui-là était vraiment très beau. J'aime bien le look de Faust, cette version New 52. Et non, pour moi c'est vraiment c'était la bonne surprise de la semaine. un bail aussi.
Ben c'est parfait. Moi, j'ai pas eu le temps de le lire, malgré que soit Jeff Lemire. Je voulais, mais vous m'avez vraiment donné envie de le lire, donc j'irai rattraper ça assez rapidement.
Ouais, je pense que tu passeras un bon moment, et puis voilà, faut 20 bonnes minutes, je pense, pour le lire. En plus, ça fait plaisir.
Ouais, j'ai trouvé que ouais, c'était assez long et tout, et que c'était on en avait pour son argent.
Ok. Ben, on va passer à autre chose d'assez long à lire, justement, qui m'a pris vraiment du temps, qui m'a mis en retard hein, tout à l'heure, n'est-ce pas, Kinyed? le Amazing Spider-Man 686, avant-dernière partie de Ends of the Earth. C'est toujours Dan Slott au scénario, Stefano Caselli est tout seul pour la partie graphique, c'est-à-dire dessin et ancrage. Et on a vu le plan de Dr. Octopus se mettre en... Eh merde, je trouve pas le mot que je veux.
En branle.
Se mettre en place.
C'était pas, voilà. C'était pas le mot que tu voulais. Mais
si, c'est ça. c'était le mot que je cherchais. Donc se mettre en branle et pas de bansala s'il te plaît, merci. dans l'ordre du dernier épisode à la toute fin et donc voilà, Spider-Man toujours accompagné de Silver Sable et de Black Widow vont devoir prendre une décision, continuer de chercher Octopus ou aller sauver les blessés. Et est-ce que finalement le plan de Dr. Octopus avait pas encore autre chose derrière? Je peux vraiment pas en révéler beaucoup puisque ça fait partie du mystère de cet épisode, mais bon, Spider-Man va devoir aussi affronter les nouveaux Sinister Six d'Octopus, car il avait un plan de secours. C'est sympathique. Il se passe beaucoup de choses. Comme je dis, on met surtout beaucoup de temps à lire. C'est très très long. Comme tous les épisodes de Ends of the Earth, je trouve qu'ils sont vraiment longs à lire. Ce qui est bien. C'est une bonne chose, puisque au moins, on paye pas pour pas grand-chose, en tout cas. Un peu comme... même si Aquaman, c'est bien. Enfin, voilà, lire le comic en 5 minutes, ça fait un peu chier, quoi. Donc non, moi franchement un bon épisode, j'ai hâte de voir la fin, voir s'il est comment ça va se terminer en fait, parce que là j'ai honnêtement aucune idée de comment ça va se terminer. Donc pour moi ce sera c'est un bail parce que c'est sympathique et on passe un bon moment à la lecture. Je sais que toi tu es pas super super fan hein, de cette harmonie.
Ouais, franchement, ça dépend. Slott, ce que j'aime pas trop chez lui, c'est le côté un peu trop, ça va un peu péjoratif de dire ça, un peu trop gamin, qui donne aux aventures de Spider-Man, dans le sens où c'est essentiellement très drôle, c'est pas très très adulte les histoires de Spider-Man actuellement. Ça lorgne surtout vers la comédie. Et puis, par exemple, ce qui m'énerve à chaque fois, c'est l'omniprésence de le seul cast qu'il a, c'est maintenant l'équipe de savants là qui bosse avec lui.
Pour moi, je trouve que c'est une bonne addition, surtout là la façon dont c'est fait, dont c'est traité.
Ouais, mais où sont les autres? À force.
Où sont les
femmes?
Mais non.
Ah bah toi tu sais où elles sont, Kinyed.
Ah
hein.
Oh, c'est bon.
Elles sont chez Kinyed justement. Alors.
Il y a toute une foule en délire derrière lui. Qui sont en train de lui montrer ses seins et tout là.
Ah non mais ça.
faudrait mettre sur Comic City l'image qu'il met sur Skype déjà. Il se la pète et tout là, c'est genre Clark Kent et tout. Genre je suis timide et tout, mais n'importe quoi. Donc je repars à ce que je disais. Quand je disais où sont les autres, je veux dire Flash Thompson, Betty Brant, Mary Jane.
Alors, Flash Thompson il est dans Venom.
Oui, bah,
d'ailleurs c'est vrai, Venom justement. Venom, nous n'en avons pas parlé, c'est vrai, je crois pas qu'on l'ait annoncé la semaine dernière, enfin que vous l'aviez annoncé pardon la semaine dernière. Venom change d'équipe créative. Et c'est Cullen Bunn qui sera au scénario et Declan Shelvey va quitter les nouveaux Dark Avengers pour venir dessiner Venom.
Ok.
Voilà, c'est la petite news bonus.
On n'avait pas vu la news, non. Effectivement, on était passé à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'aime bien le supporting cast original et là maintenant. Et en plus le truc c'est que c'est un petit peu cheap quoi. C'est il peut tout faire maintenant, Peter Parker. Il a plus de problème.
C'est surtout du fan service quoi. Le mettre dans des nouveaux costumes, ce genre de truc, c'est vraiment du fan service.
Ouais, non mais enfin une fois, deux fois, mais alors que ce soit à tous les arcs, à chaque arc. Il a un nouveau costume. Ça devient une parodie de... Il s'auto-parodie, quoi.
Mais l'exemple que tu prenais de ce cast de Horizon Labs, moi, je les aime bien. C'est un petit peu le même principe qu'on a dans... En tout cas, je sais pas, j'ai pas lu les nouveaux numéros d'Innocenti, mais qu'on avait au départ de Green Arrow, même si Green Arrow est pas super, super bon façon New 52. Le fait d'avoir une équipe qui travaille de concert avec lui, qui l'a dans les oreilles, enfin voilà, via un casque, c'est pas une mauvaise idée, je trouve. Après, bon, chacun, enfin, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai que moi j'aime bien ce principe de, bah, c'est un héros, d'accord, c'est lui qui est sur le terrain, d'accord, mais il peut pas penser à tout en même temps. Et d'avoir quelqu'un qui, d'avoir des personnes qui sont là pour l'aider et le guider, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ça ouais. paraît déjà un peu plus réaliste, même si bon, un mec avec des pouvoirs d'araignée, c'est pas vraiment très réaliste.
Non, mais ouais, enfin bon, enfin moi ça me, voilà, ça me captive pas plus que ça. Généralement, je m'ennuie assez quoi à la lecture de Spider-Man en ce moment.
Ok. Donc bah pour moi c'est un bail. Bah pour toi même si tu as commencé à lire seulement.
Ouais, j'ai commencé à le lire, j'ai pas eu le temps de malheureusement avant le podcast. Il me restait plus que ça de ce que j'ai pris, donc bon bah tant pis.
Ok. Allez, on va terminer avec pas mal de petites reviews express et c'est Kinget qui va commencer.
Oui, alors pour commencer, je vais vous parler de Teen Titans numéro 9, donc avec Scott Lobdell au scénario et IG Guara au dessin. C'est la fin de l'event The Culling. Eh bien, j'avais bien aimé le début et finalement, j'ai été déçu par la conclusion. J'ai trouvé le final assez brouillon et plutôt décevant en fait. Le personnage de Harvest, qui était justement la menace suprême de cette organisation Nowhere, j'étais très déçu qu'on n'en apprenne pas plus sur lui. J'ai pas trop aimé non plus la conclusion du combat justement avec ce personnage. Il y avait tout un lien en fait avec les technologies du futur qu'il avait réussi à posséder, on sait pas du tout pourquoi. Voilà, ça faisait un peu fin en queue de poisson pour cet arc. Ça, c'était une façon de pouvoir introduire la nouvelle série, donc qui s'appelle The Ravagers. Donc là, pourquoi pas, quoi. Ça explique pourquoi il y aura une série qui s'appelle The Ravagers. Mais au final, je trouvais que ça s'essouffle un peu sur la fin. Et j'étais un petit peu déçu aussi par les dessins, parce que IG Guerra, je l'ai trouvé bien meilleur sur Blue Beetle lors des premiers numéros. Là, c'est assez brouillon. Les visages des personnages sont assez ratés. Bon, faut dire qu'il a énormément de personnages à dessiner. Il y a à la fois des personnages des Teen Titans, il y a de Legion Lost, il y a Ravagers, il y a vraiment beaucoup de persos, mais bah du coup c'est pas tip top. J'aurais préféré un truc un peu plus fou quoi à la fin. Et puis la fin, c'est vraiment on a l'impression il se passe un truc, on comprend pas trop pourquoi. Et donc voilà, ça m'a laissé un peu dubitatif. Donc,
j'ai le droit de dire ça me surprend pas.
Bah oui, bah je sais que t'étais pas. Moi, il y a eu des numéros de ce crossover là que j'ai trouvé intéressant, mais la fin est vraiment pas très bonne quoi. Donc pour moi, c'est un check-it tendance passe presque. Bah, c'est dommage de manquer la conclusion.
Oh mon Dieu, Kinged n'a pas aimé un truc.
Ouais, non, ça m'arrive. Mais j'étais un peu déçu parce que j'en attendais mieux en fait, surtout.
Alors, écoutez, je vais vous parler de, des Fantastic Four avec, donc c'est le numéro 606 avec Jonathan Hickman au scénario et qui c'est donc au dessin du coup. Ah oui, c'est Ron Garney qu'on retrouve cette fois-ci. Alors, c'est un stand-alone, un one-shot, voilà, qui durant la première partie au fait de ma lecture pendant 10 minutes, enfin pas pendant 10 minutes parce que ça me met moins de temps pour le lire, mais disons que pendant quelques minutes je me suis dit franchement qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est totalement inintéressant. Et puis bon, on comprend au fait ce qui se passe. Comment dire, les Fantastic Four sont dans une espèce de dimension. On ne sait pas trop où ils sont. Ils affrontent des créatures étranges. Bon, voilà. On ne sait pas trop ce qui se passe, ni quel est leur but. Et au fait, au milieu de l'épisode, on comprend vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et à partir de là, ça prend tout son sens. Et c'est plutôt sympa comme idée. J'avais pas vu le truc venir, même si au fait j'avais une idée assez proche. Mais bon, enfin, disons que c'est un épisode plein de bons sentiments finalement, ce qui est pas utile quoi. Enfin voilà, c'est surtout ça quoi. Franchement, c'est le truc qu'on peut zapper mais totalement cette semaine. C'est sympa sans plus. Ça restera pas dans les mémoires. Je sais pas si Jonathan Hickman va rester encore longtemps sur le titre. Je sais pas si vous êtes au courant. Non mais je sais pas. Enfin je sais pas ce qu'il en est. J'ai pas lu de
trucs. De toute façon, Jonathan Hickman a dit qu'il quittait Fantastic Four à la fin de l'année.
D'accord, bon bah alors oui, enfin il lui reste quand même quelques mois quoi du coup. Mais bon enfin voilà, ça sent un petit peu la fin. Là honnêtement, je pense qu'il a voulu faire un petit épisode marquant, un petit épisode émouvant, mais bon, ça tombe un peu à plat, quoi. Surtout qu'il va pas au bout de son idée, donc c'est un petit peu dommage, quoi. Voilà, sans plus, pour moi, ce sera vraiment juste un check-it. Et puis en plus, Ron Garni, il est pas à son meilleur.
Ok. Ben, moi, je vais vous parler maintenant de mon coup de cœur de la semaine. Resident Alien, chez Dark Horse. C'est le premier numéro d'une mini en 3. Alors, il existe un numéro 0 qui est sorti le mois dernier, et c'est quelque chose qui était une réimpression, parce que ça a été tout d'abord lancé dans les pages de Dark Horse Presents, du numéro 4 au numéro 6. Il y avait trois petits chapitres qui forment ce numéro 0. Donc là, la mini-série est lancée, parce que ça a eu du succès, ça a plu, donc voilà, on continue la série. C'est écrit par Peter Hogan. Alors, Peter Hogan, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de 2000 AD, tout Tyson AD, pour les anglophones. Qui a écrit Terra Obscura, quelques épisodes avec Alan Moore. Il a écrit du Tom Strong aussi. Il a écrit la dernière mini-série Tom Strong, qui s'appelait Tom Strong and the Robots of Doom. Et puis au dessin, on retrouve Steve Parkhouse. Steve Parkhouse, c'est quand même quelqu'un, pareil, qui a un lourd passé de chez 2000 AD, qui a notamment dessiné Big Dave dans les pages de 2000 AD, qui était scénarisé par Morrison et Mark Millar, qui était un truc extrêmement controversé à l'époque.
Il a fait de la prison aussi.
Il a dessiné The Beat Jeffries Saga sur un scénario d'Alan Moore, The Dreaming, la série Vertigo, aussi avec le scénario Peter Hogan, en tout cas sur les parties qu'il a dessinées. Il a dessiné Night Raven pendant très longtemps, un personnage de chez Marvel UK, enfin bon, voilà, et beaucoup de Doctor Who Magazine. Voilà, ce sont vraiment deux vieux de la vieille, on va dire, des créateurs anglais.
Ils ont
de
la bouteille.
Ouais, voilà. Et alors, le principe de Resident Alien, c'est tout simplement, alors comme son nom l'indique, hein, il y a un petit jeu de mots avec Resident Alien, qui est donc aux États-Unis un immigré clandestin, on va dire. L'histoire, c'est un véritable alien, hein, un petit peu Roswell style au niveau de la tronche, qui va s'écraser sur Terre et qui va essayer de vivre de façon complètement cachée dans une petite ville aux USA, en attendant que ses compatriotes viennent le récupérer. S'ils viennent le récupérer un jour, ça, il ne sait même pas s'ils vont pouvoir venir. Et donc, il a quelques petits pouvoirs mentaux qui lui permettent de passer pour quelqu'un d'humain aux yeux des gens, mais ça ne marche pas sur tout le monde.
D'accord.
Et donc, cet alien va se faire passer pour un docteur à la retraite qui s'appelle Dr. Harry Van Der Spiegel. Oui, c'est très drôle, mais de toute façon, c'est de l'humour comme ça. C'est de l'humour, c'est très fin, quoi. Et bien sûr, il peut pas rester caché éternellement, puisqu'il habite à côté d'une petite ville qui s'appelle Providence, Patience, pardon. Aux USA, donc je sais pas si c'est vraiment expliqué où c'est. Ça ressemble à être un petit peu à un état style le Maine ou le Michigan, un état un peu plus du nord avec des lacs, ce genre de choses. Et le docteur de la ville se fait assassiner.
D'accord.
Donc le shérif va venir le chercher. Alors tout ça, c'est ce qui se passe dans le numéro 0. Hein. Le shérif va venir le chercher, lui demander un coup de main, qu'il puisse au moins regarder un petit peu le corps, puisque les experts médicaux officiels ne pourront pas venir tout de suite, puisque c'est une petite ville, hein, des USA, donc ils peuvent pas se déplacer tout de suite, ils ont plus de docteurs, etc. Donc il va falloir qu'il les remplace. Il est pas super joyeux de se mêler à la population, mais bon. Il le fait parce que malgré tout, ça l'intrigue. Il a envie de résoudre ce meurtre. Et il va devenir aussi le docteur de la ville en attendant que quelqu'un vienne le remplacer de façon officielle. Et on va suivre un petit peu ses premiers pas dans la ville, l'enquête en même temps, et puis voir que tout n'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est vraiment très bien écrit. C'est une ambiance assez lente, c'est un humour assez fin. C'est pas le grand rire. C'est juste en fait vraiment de l'ambiance. Ça pourrait être vraiment une très bonne série télé. Et finalement, on oublie totalement que le personnage est un alien, même s'il est dessiné constamment avec sa tête d'alien, mais que les gens ne le voient pas.
D'accord.
C'est un petit peu, il a un petit peu cette candeur d'un Édouard Romain d'Argent, ou ce genre de personnage un petit peu qui découvre les humains et leurs travers, entre autres. Moi, ça m'a fait penser un petit peu dans l'esprit à des séries comme Everwood, par exemple, où on a un docteur qui vient se réfugier dans la campagne pour être loin de tout le stress de la ville. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Ça m'a un petit peu fait penser à Eureka aussi, le fait qu'ils doivent prendre le rôle de... Bah, dans Eureka, c'était le rôle du shérif, là, c'est le rôle du médecin, et se rendre compte que finalement, il aime bien travailler à la résolution d'enquête. Non, franchement, une super lecture, je le conseille vraiment à tout le monde. Si on n'a pas lu le numéro 0, ça reste compréhensible, c'est quand même mieux de l'avoir lu.
D'accord.
Mais on peut arriver à comprendre même sans le numéro 0.
Le 0 est différent, c'est pas juste la première page du 1, quoi.
Non, il y a aucune page du 1, et justement, ça reprend sur le numéro 1 commence vraiment à la fin de ce qu'on voyait dans le numéro 0, donc il nous manque, enfin, on a ce petit, ce gros cliffhanger à la fin du 0. C'est vrai que si on commence par le 1, on perd un petit peu, mais bon, ça peut se lire quand même et on peut très bien comprendre la série comme ça, quoi. Il y a aussi un petit résumé sur la première page, donc ça permet aussi de comprendre mieux. Franchement, pour moi, la meilleure lecture de la semaine est un gros bail.
Voilà, la découverte, c'est Resident Alien.
Ouais, voilà, une mini-série en 3 en plus.
Resident Alien.
Oui, moi ça me faisait penser à ça, surtout depuis le début. Dès que j'ai lu le titre, j'ai même pratiquement lu Resident Evil en scrollant, tu vois, un peu rapidement.
Ouais. Par contre, c'est vraiment, comme je dis, c'est une série un peu plus d'ambiance. On est assez proche des ambiances un peu à la Terry Moore ou ce genre de choses, quoi.
C'est pour ça.
C'est plutôt calme, hein. Mais c'est vraiment très 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 sympa. C'est très bien écrit.
D'accord.
Okay. On continue.
Ouais.
Avec toi, Kinghead.
Alors, ma dernière review express de la semaine. Donc, je vais vous parler d'un nouveau titre chez Dark Horse, Star Wars. Donc, c'est Darth Vader and the Ghost Prison. Donc, c'est un numéro 1. Ce sera une mini-série en 5. Donc, avec Aden Blackman au scénario et Agustin Alessio au dessin. C'est une très très bonne surprise. Donc c'est une histoire qui se passe après la guerre des clones, où en fait on est du côté de l'Empire, avec la formation en fait des soldats de l'Empire. Ça commence avec la présentation d'un personnage qui a fait ses classes et qui vient pour justement recevoir son diplôme. C'est un cadet, donc il va devenir un gradé dans l'Empire. Et donc ils vont sur Coruscant pour voir Dark Vador et l'Empereur. Le personnage principal est assez intéressant. Il est assez refermé sur lui-même. Il est très, il étudie beaucoup. Il étudie toutes les stratégies, les anciennes grandes batailles de la guerre des clones. Et en fait, il a aussi tout le visage, en fait, enfin une moitié de son visage qui est défiguré à cause d'une explosion. C'est un personnage qui vit un petit peu à l'écart des autres.
C'est John Wick, en fait.
Ouais, un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il nous montre un côté vraiment. Sympa du côté de l'Empire. C'est pas tous des salauds, quoi. Et on voit bien qu'ils sont manipulés par l'Empereur, qui leur fait croire que les Jedi, c'était vraiment eux les méchants. Et eux, ils croient, ils pensent faire le bien, en fait. Et en fait, pendant cette remise de diplôme, il part avec des potes, il commence à faire un peu des conneries. Et en fait, il se retrouve au milieu d'un attentat, avec des explosions un peu partout. On voit.
Généralement, c'est ce qui se produit dans un attentat.
Voilà, ouais, c'est ça.
Attends, un indice. Si un jour. Il n'y a pas d'explosion, c'est que t'es pas au milieu d'un attentat. Déjà.
Mais ça peut être un attentat bactériologique. Hein, où il n'y a pas d'explosion. Mais là, c'est un attentat où en fait, il y a carrément toute l'académie qui explose. Donc, on voit Vador qui combat des rebelles, tout ça. On se retrouve un peu au milieu de tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et à la fin, on a un gros cliff en fait sur l'origine de cet attentat qui est derrière tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne introduction. Les dessins sont très bons. C'est un peu terne par moment au niveau des couleurs, mais ça donne un certain style. Et le personnage, voilà, j'ai trouvé qu'il était intéressant, pas manichéen, et ça va être intéressant de voir ce qui se passe par la suite. Donc pour moi c'est un bail. Je vais tester toute cette mini-série. Voilà.
OK. Bon, c'était pas trop une review express en fait. Comme nos trois dernières reviews finalement. Ok, un bail pour cette nouvelle mini Star Wars, donc Darth Vader and the Iron Prison,
c'est ça? Prison.
Ghost Prison, ouais. Je sais pas pourquoi Iron. Mais... en même temps, des prisons, c'est souvent barre de fer. Donc...
Ouais.
La barre de fer.
Mais j'attendais que quelqu'un remonte.
Ah, bah oui,
mais c'est à toi, Bunny.
Ouais, avec Avengers, Secret Avengers, pardon, que même. Alors donc on va le refaire. Secret Avengers numéro 27, si je me gourre pas, c'est bien ça, c'est le numéro 27. Rick Remender est au scénario et Renato Guedes est au dessin. Alors Renato Guedes qui nous fait quand même qui a un style un peu particulier. J'ai l'impression que le mec change souvent son style.
Et il fallait que tu nous fasses un tie-in AVX, quoi. On n'avait pas eu cette semaine. On s'est dit on allait
ouais,
pas.
Ouais, mais alors quand même assez à part.
Bon, d'accord.
Alors, au fait, je resitue. Ils sont sur la planète Kree. Enfin, les Secret Avengers sont sur la planète Kree. Donc, les Secret Avengers, maintenant, l'équipe a encore un peu changé. Il y a Beast, Captain America, Thor, enfin voilà, des gens comme ça. Vision, Miss Marvel.
comprends pas trop ce que Thor vient foutre dans...
Ben oui. Bon, enfin bon.
C'était pas censé être Captain Britain, tout ça ?
Il est là aussi. Voilà, c'est War Machine. Donc, enfin bref, ils sont sur la planète des Kree. Et au fait, Venom. Le Phénix...
Parce qu'il était censé faire partie des Secret Avengers, lui aussi.
Je sais pas.
Non, mais il est pas là, il est pas là.
Bon, bah tant pis. Le truc qui tombe à plat, en fait. Je t'en prie, continue, excuse-moi de cette interruption.
Donc la planète des Kree.
Ouais. Et je vais faire la blague pourrie. Ah! Voilà. Parce que ça, c'est fait, on peut continuer, donc.
Ouais.
Personne l'a comprise. Ok, bon, allez,
on continue. On se remotive, on y va. Ils sont sur la planète des Kree. Le Phénix arrive, et au fait, le Phénix a ressuscité Captain Marvel, le Captain Marvel original. Le vrai, cette fois-ci. Celui qui est mort du cancer.
Oh putain.
Voilà. Et seulement, le Phénix a un effet apparemment assez négatif, puisque Miss Marvel, Protector et le Captain Marvel original pètent complètement les plombs et commencent à attaquer l'équipe de Secret Avengers.
Mais ça y est, ils l'ont leur Marvel Family quand même.
Ouais.
Ouais.
Et donc, grosso modo, tout l'épisode, c'est les Secret Avengers qui sont sur la planète des Kree, qui essayent de remettre de l'ordre. C'est le chaos, le Phénix arrive, les Kree apparemment accueillent le Phénix, les bras ouverts. Ils sont totalement à la ramasse, quoi. Et donc voilà, c'est un petit peu l'apocalypse sur la planète Kree.
Tout le monde crie.
Ça, j'attendais que quelqu'un fasse une blague toute miteuse. Et merci Kinghead. Et l'épisode franchement est sympa. Moi j'ai bien aimé. Cela dit, Renato Guedes, donc comme je disais, a encore changé son style. C'est vraiment bizarre. Quelquefois, les personnages ont des têtes un petit peu bizarres. Et puis d'un autre côté, il y a certaines pages qui sont vraiment réussies. Donc je sais même pas si j'aime ou si j'aime pas quoi son style. C'est bizarre. Et puis le scénario est assez sympa. Enfin, j'aime bien quoi cet arc. C'est un petit peu en retrait d'AVX parce que même s'il y a le Phénix qui est très présent. Là, c'est quand même le gros de l'histoire, c'est le retour de Captain Marvel, et c'est plutôt bien écrit par Rick Remender. On sent que Rick Remender aime bien ramener les vieux trucs, hein. L'ère d'Apocalypse dans Uncanny X-Force, là, c'est Captain Marvel qui revient dans Secret Avengers, il aime bien les transporter hors de l'ordre.
Ouais, mais Captain Marvel, quand même, fallait pas y toucher. Enfin, moi, je pense qu'il fallait pas y toucher. Mais...
Quand
on disait ça de Barry Allen, mais bon.
Ouais. Bah, faut voir. Moi, je pense que ce sera juste temporaire. Je pense que il est là, mais il va vite repartir dans les limbes. C'est grâce au Phénix, donc je pense que dès lors que le Phénix va disparaître, voilà, lui aussi.
Est-ce que le Phénix disparaîtra ?
Je pense. Et il va s'éteindre.
Tu vas arrêter de cramer, oui.
Et donc, sur ce, ouais, bah un bail quand même. Moi, j'ai bien aimé cette lecture. Secret Avengers, là, le premier arc, je l'avais même pas terminé.
Tu viens de dire bail pour un truc AVX ?
c'est un peu à part. Donc voilà. Donc
vendu.
Non mais Rick Remender, pour moi ça fait pas partie. Justement, il fait pas partie des 5 architectes principaux et pourtant, faut plutôt aller voir du côté de ces auteurs qui sont pas forcément les plus mis en lumière chez Marvel. Oui.
Voilà. Je te rejoins entièrement.
Donc voilà. Lecture sympa.
Ok. Bon, je vais faire de l'express avec le Godzilla numéro 1 qui sort chez IDW. Il est là. Bon, c'est un peu plus aigu normalement, mais
D'accord.
Donc c'est écrit par Dwayne Swierczynski, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été voir, puisque c'était un auteur quand même assez connu. Au dessin, on va retrouver Simon Gain. Je ne sais pas ce qu'il avait fait avant. C'est un dessin assez vertigo en fait, je trouve, dans le style. J'ai pas grand chose à en dire. Hein. Godzilla et plein de monstres se réveillent et commencent à tout casser. Et finalement, on va suivre principalement un personnage qui est un ancien marine qui est devenu garde du corps pour la fille d'un riche industriel. Et il va essayer de la protéger durant cette attaque de Godzilla. Donc on a vraiment un truc, c'est du die-hard, c'est du arme fatale. C'est même plus que ça, c'est du triple X, je dirais. Enfin, voilà, okay. On pourrait très bien imaginer un The Rock ou un, comment il s'appelle l'autre là, Vin Diesel, ou un John Statham dans le rôle de ce personnage, ça collerait tout à fait. C'est de l'action. On verra ce que ça va donner. Pour le moment, je suis pas plus séduit que ça, honnêtement.
Est-ce que ça t'a donné envie de réécouter Puff Daddy Come with me. Boum boum. Poum.
Bah déjà, en fait, si tu veux, poum, au départ, j'ai absolument poum, jamais eu envie d'écouter Puff Daddy. C'est juste un petit peu à l'opposé de ce que j'écoute habituellement, mais c'est pas parce qu'il y avait un...
Je me rappelais plus que c'était Puff Daddy qui chantait
mais
ça.
Mais si, c'est le seul truc bien dans... Come with me, c'est la musique de...
Come with me.
C'est pas parce qu'il y avait un riff de Led Zepp.
Come with me. Et est-ce qu'il y a Jean Reno?
Non plus.
Ah, bah je vais pas lire.
Non, bon, c'est
du café,
franchement...
du café français. C'est bon, ce film. Et franchement, ce film, c'était une merde. Mais alors, je me rappelle, à l'époque, on avait vu les extraits, les premières images un an avant, et on l'attendait comme le Messie. Enfin, moi, je l'attendais comme le Messie, ce film et tout. Tu sais, il nous avait juste montré une digue comme ça qui se cassait la gueule devant une voiture.
Ouais, un Godzilla fait par les Américains avec des capitaux américains, forcément, on pouvait qu'attendre le film.
Ouais, non, mais... il fait rigoler quand même.
Qui est de Godzilla là, tu sais, c'était franchement, j'attendais ce truc quoi, avec le pêcheur et tout là qui arrive là et tout, le truc qui sort de la flotte, et c'était une merde mais absolue quoi quand même.
Mais je sais pas s'il faut en rigoler ou en pleurer en fait, parce qu'ils ont quand même un peu saccagé la licence quoi.
Bah ouais, c'est clair.
Dans le cinéma, c'est la seule fois de ma vie, je pense, que je me suis endormi devant un film.
En tout cas en Occident, puisque en Orient il n'y a pas de problème, Godzilla est toujours aussi populaire. Donc oui, bah pour moi franchement c'est tout juste un check-it, non, ouais, en train de check-itter un pass franchement, parce que là pour le moment ça bouge, mais pourquoi en fait, on sait pas trop et c'est un peu le problème, donc je sais même pas si j'irai voir le 2 honnêtement. King, tu avais fini?
Moi j'ai fini.
Bunny, tu en restais encore un, je crois.
Non, il a fini, je crois aussi. Bunny,
non, c'est fini, non?
Ah merde. Bon bah je vais terminer alors très 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 rapidement avec Savage Oakman numéro 9, l'arrivée de Rob Liefeld au scénario. Ouh. Avec accompagné de Mark Poulton.
Ouh, Mark Poulton, comment tu vas?
Et au dessin on a Joe Bennett, ancré par Art Tibbert. Bah pff, alors honnêtement j'ai eu un break, j'ai dû lire les 4-5 premiers de Oakman, j'ai pas lu les autres. Là j'ai pris celui-ci pour voir ce qui advenait du personnage. Alors c'est plutôt joli, l'armure est sympathique. Y a-t-il un gros intérêt? Je suis pas certain. En tout cas, c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais, honnêtement. Je m'attendais à un gros truc vraiment qui se barre dans tous les sens avec du Rob Liefeld, le scénario, avec c'est all guns blazing, quoi. Ouais. Mais non, pas du tout. Avec un petit clin d'œil à Judas Priest, au passage. Vous avez pas compris, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Il va y avoir des auditeurs qui vont comprendre.
J'espère. Franchement, c'est sympathique, mais on découvre un petit peu de nouveaux pouvoirs pour le costume d'Oakman. Il commence à avoir des transmissions. Mais on verra où ça va aller. Pour moi, c'est à check it, pas plus. Et vraiment, je me force.
D'accord, mais du coup, bah, c'est pas trop mal parce que Liefeld, je trouve qu'il a sur Deathstroke et sur Grifter, il a fait des trucs pas trop mal non plus avec ses premiers numéros. Donc, on avait tous peur que ça allait être une catastrophe, et finalement, c'est pas mal.
Bah, en même temps, Oakman n'était pas parti dans une très très bonne direction. Ouais. Le début était sympathique, intriguant, et j'avais l'impression que ça tournait un petit peu en rond, sans beaucoup avancer. Donc, c'est pour ça que j'ai été voir, je me suis dit, est-ce que ça met un peu de sang neuf? Oui, mais où est-ce que ça va? Je sais pas trop encore, c'est pareil. Donc,
je pense qu'elle n'a pas beaucoup d'avenir, de toute façon, cette série.
Je pense aussi, ouais.
Quand il y aura la third wave, je pense que ça va virer.
Donc, check it. Et je vais terminer par parler du quatrième chapitre d'Insufferable de Mark Waid et Peter Krause. La dernière fois, quand on avait parlé du numéro 1 avec Jean-Lô, qui avait que moyennement aimé. Moi, j'avais beaucoup aimé. Et on ne savait pas trop quel serait le modèle économique. Et pour le moment, en fait, tous les épisodes sont lisibles gratuitement sur le site de Thrillbent. D'ailleurs, cette semaine, il a même mis la possibilité de le télécharger.
D'accord. Cet épisode.
Que ce soit en CBZ ou en PDF.
Ça, ben, c'est plutôt sympa, ça.
Et c'est pour faire un test. On verra. Normalement, aujourd'hui, il donnera la réponse, mais à mon avis, à l'heure américaine. Donc, parce que là, nous enregistrons vendredi, il est 21h pour cette fin de podcast, même presque 21h30. Mais il n'y a pas encore eu d'annonce sur le site. Il fera une annonce par rapport à ce modèle économique du téléchargement.
Mais là, il n'y a pas vraiment de modèle économique, parce que je sais pas comment il peut gagner de la thune, du coup, si...
Par le bouche à oreille, par la pub aussi peut-être, je ne sais pas trop.
Parce qu'il n'y a pas de pub en fait sur son site, à part pour son site lui-même quoi, mais.
J'en sais rien, honnêtement j'ai un blogueur de pub. Donc...
Ah d'accord, ok.
J'en sais rien. Mais je ne sais pas trop. En tout cas l'histoire avance bien. On comprend des choses notamment sur la disparition de la mère de Society, qui est donc de la femme du personnage principal, hein, qui s'appelle donc Nocturnus égale Ad. Et on a surtout un final où là, d'un seul coup, ça part dans une direction beaucoup plus fantastique. Et ça, c'est très 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 intriguant pour la suite. Et honnêtement, j'ai hâte de voir où ça va aller. Parce que là, d'un seul coup, ça peut changer totalement la direction de la série. Donc vraiment un truc à suivre, surtout parce que c'est gratuit. Donc faut pas se gêner, quoi. Très très bon, donc c'est pour ça que je voulais en placer deux mots. Et c'était ma dernière review de cette semaine. Donc je vais même pas dire si c'est un bail ou pas, enfin c'est gratuit. Donc
C'est un take it.
Ouais ouais. C'est un read it. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine.
Puisque vous pouvez vous faire le plaisir de le voler vu que c'est gratuit.
Ouais, celui-ci vous pouvez le télécharger. Bon, c'est légal, mais...
Non, enfin même, vous pouvez aller en boutique et vous faire le kiff, tu sais, de le prendre sur le rayon et de le mettre directement dans le sac, tu sais, et tout, tu sais.
Mais c'est pas du papier, hein, il y a que du... digital, hein. C'est plus un comics digital, donc pour le lire, hein, c'est rendez-vous sur le site de Thrillbent, hein, c'est okay. Thrillbent.com, et vous pourrez le lire facilement et surtout légalement. Donc voilà, donc ça conclut nos reviews de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. J'avais dit que je ferais une petite annonce concernant ce fameux numéro 100 qui arrive à grands pas. Eh bien, nous allons teaser tout de suite, puisque nous allons annoncer que nous allons faire un podcast en direct, mesdames, messieurs. Eh oui, soyons fous.
Wouhou !
Oula, ça vous motive, hein. On sent que vous êtes motivé. Non, à l'occasion de la 100e, je vais revérifier la date. Normalement, ça doit tomber le 22 juin de mémoire, mais il faudra que je revérifie la date. De toute façon, on va en reparler d'ici là. Nous ferons un podcast en direct de 21h à... voilà. On verra jusqu'à
pas d'heure, jusqu'au bout de la nuit, on va faire la fête.
Est-ce qu'il n'y ait plus personne?
Peut-être pas, parce que il suffirait qu'il y ait des gens qui restent très très tard.
Jusqu'à ce qu'il y ait une personne, ce sera déjà bien.
Non, voilà,
moins un auditeur qui nous écoute, donc on va l'attendre patiemment, et au bout de 12 heures, si vraiment il y a toujours eu personne, on fermera boutique. Mais on fermera définitivement, je pense, à ce niveau-là.
Oui, aussi. Pour tous ceux qui ne pourront pas être là en direct, vous inquiétez pas, il y aura aussi un montage et vous pourrez écouter l'émission ensuite.
Mais alors, attends, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a moyen que des gens posent des questions en direct ou interviennent?
Eh bien oui, nous allons mettre aussi un chat, comme ça les auditeurs pourront interagir avec nous.
Oui, ça change tout.
On est encore en train de finaliser, je suis encore en train de finaliser un petit peu les détails techniques.
Ils pourront poser des questions personnelles, des trucs comme ça, sur nous, machin.
On verra où c'est nous qui répond. Ça dépend si c'est trop personnel.
Oui, voilà.
Je ne dirai pas combien je mange de céréales par jour.
Combien tu prends de clopes?
Ça non plus. Parce que je serais incapable de donner le chiffre moi-même.
On mange très exactement 182.
Non, 52, comme tout le monde.
Ah bah oui, 52, le chiffre pour tous les fans de comics.
On en reparle très prochainement, mais c'était déjà pour vous prévenir, réservez votre soirée du 22 juin. À partir de 22h, nous communiquerons l'adresse, bien sûr, où vous pourrez nous écouter en direct. Sur ce, on se retrouve comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook, là juste avant l'émission, j'avais mis une petite vidéo en ligne. C'est clair qu'il l'a fait à ma place, mais je lui ai dit fais-le. En beau bourreau que je suis. Vidéo très marrante que j'ai découvert sur le net, et pour tous les fans de Marvel, j'ai trouvé ça très très drôle. Donc un petit moment pour commencer le week-end, enfin ou pour le terminer, puisque au moment où vous écouterez ce podcast, normalement, en tout cas au moment où il sera en ligne, ce sera la fin du week-end.
Et vous pourrez voir aussi pas mal de photos que j'ai pu prendre pendant la CAPAO, que j'ai posté aussi sur le site, sur Facebook.
C'est vrai. Notre reporter photo.
Voilà, ouais, c'est ça.
Qui est le French Lover.
Oh,
c'est bien connu.
Ça suffit.
On se retrouve donc aussi sur Twitter, comme je l'ai dit, sur le site, bien sûr, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Une petite question, on y répond, et de toute façon, on lira le mail à l'antenne, sauf si vous nous précisez que vous ne voulez pas que le mail soit lu. Vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes, et puis c'est tout. Je cherche un truc, il n'y a rien de plus. Aidez-moi.
Bah, goodbye everybody.
Ouais.
Ouais. Et puis see you next time. Hein, pour parler anglais, parler bien anglais en plus.
Et puisque tu me parodiais de chanteur de métal, je vais quand même finir cette émission en citant des petites paroles quand même, hein, puisque.
Ah oui, c'était pas les bonnes paroles, c'est vrai, oui.
Non, mais je dirais simplement à tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir.
Bye.